Bonjour à tous. Christiane Taubira, officiellement candidate à l'élection présidentielle. À Lyon ce matin, l'ancienne garde des Sceaux a déclaré vouloir prendre toute sa part contre la démoralisation et les discours de haine. Nous serons à Lyon dans un instant. À Paris, au Louvre, Marine Le Pen lance son duel face à Emmanuel Macron. Une allocution enregistrée à l'endroit où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire contre elle en 2017. La lutte contre l'épidémie de coronavirus, le texte sur le pass vaccinal retourne au Sénat cet après-midi. Dans le même temps, le pass sanitaire risque d'être désactivé aujourd'hui pour 560 000 personnes et la question de la quatrième dose de vaccin semble s'éloigner. Dans ce journal également, le correspondant du journal Libération en Tunisie, violemment frappé hier par les policiers. Et en fin de journal, le choix culturel nous amène à la Comédie Française pour l'année Molière. La météo avec du soleil surtout au sud. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Une candidature de plus à gauche pour la présidentielle. Confirmation ce matin à Lyon. Christiane Taubira se lance.
Nous sommes ici parce que le pays s'interroge. Sur l'ensemble du territoire, dans l'Hexagone, les Outre-mer, je vois, j'entends les colères face aux inégalités, aux injustices. Pour toutes ces exigences d'un gouvernement qui nous respecte, qui vous respecte, pour toutes ces exigences d'un gouvernement d'une grande démocratie, débarrassé de fantasmes monarchiques, pour satisfaire toutes ces exigences, je suis candidate à la présidence de la République. Merci pour votre confiance.
Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Notre envoyé spécial à Lyon, alors Christiane Taubira a également dévoilé ses premières propositions.
Et la première des priorités, explique Christiane Taubira, c'est la jeunesse. Elle propose un revenu de 800 euros par mois pendant 5 ans pour permettre aux jeunes de faire leurs études plus sereinement. L'ancienne ministre de la Justice veut aussi revaloriser le SMIC, 1400 euros net par mois pour ceux qui touchent le salaire minimum. Et une ambition, revaloriser à terme l'ensemble des salaires. Du côté de la santé, Christiane Taubira veut recruter 100 000 soignants pour l'hôpital, faciliter l'installation des médecins. Et elle dévoile aussi des mesures écologiques, la mise en place de la TVA à taux zéro pour les produits bio, l'augmentation du bonus écologique pour les revenus les plus modestes. Le dernier axe de ce discours, c'est un plaidoyer pour la République et pour l'école, le lieu, explique Christiane Taubira, de reproduction des inégalités. Pour changer la donne, elle veut obliger les écoles sous contrat à entrer dans la carte scolaire, promouvoir la diversité, lutter contre les discriminations. La République est notre bien le plus précieux, dit-elle. Elle permet de penser à un destin commun, un destin qui, pour Christiane Taubira, passe désormais par l'Élysée.
Alors Antoine, comment a été accueillie cette nouvelle candidature à gauche ?
Eh bien, ce sont quelques centaines de militants ici, issus des comités Taubira 2022, qui ont...
Ah, Antoine Gignot, coupure, la ligne n'a pas tenu, coupure de ligne, mais on a compris l'essentiel, en tout cas, du programme et des premières orientations de Christiane Taubira, candidate depuis ce matin officiellement à la présidentielle. Le week-end politique est bien rempli, avec ce matin également Marine Le Pen qui lance son duel avec Emmanuel Macron. Marine Le Pen a choisi le Louvre pour une allocution enregistrée, là où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire contre elle au second tour en 2017. Élodie Forêt.
Une vidéo de 3 minutes pour raviver le duel devant le Louvre, où le 7 mai, Emmanuel Macron célébrait sa victoire. La candidate du RN tire à boulets rouges sur le bilan du quinquennat.
C'est ici, il y a 5 ans, qu'a commencé un quinquennat qu'Emmanuel Macron présentait comme ambitieux dans ses projets, lumineux dans ses moyens et heureux dans ses choix. 5 ans après, la promesse de cette confiance qui oblige, de cette bienveillance exhibée, de cette réconciliation proclamée, se sont évanouis.
Le vent des saisons a emporté ses paroles, poursuit la candidate, évoquant la gestion de la crise sanitaire et des gilets jaunes. Aucune allusion à ses autres concurrents, Valérie Pécresse ou Éric Zemmour. Seul Emmanuel Macron doit aujourd'hui exister comme adversaire, espère Marine Le Pen, pour alimenter son récit d'un clivage unique entre les mondialistes qu'incarnerait le chef de l'État et le nationalisme qu'elle représente.
Je veux rendre aux Français leur pays. Je veux leur rendre leur sécurité. Je veux leur rendre leur argent, fruit de leur travail. Mais aussi parce que pour un peuple, rien n'est plus porteur de discorde et de désordre que la mésestime de lui-même. Je veux leur rendre leur fierté.
Le Pen, Macron, un face-à-face que la candidate va ces prochains jours continuer à mettre en scène. Avec mardi, une conférence de presse sur l'Europe, à la veille du grand discours du chef de l'État à Strasbourg.
Élodie Forêt, Jean-Jacques Bourdin, visé par une plainte pour tentative d'agression sexuelle. Une ancienne journaliste de RMC accuse l'animateur vedette à BFM TV et RMC d'avoir tenté de l'embrasser lors d'un voyage de presse à Calvi, en Corse. C'est à la libération de la parole des femmes et plus précisément l'affaire Nicolas Hulot qui a poussé cette journaliste à dénoncer l'animateur Jean-Jacques Bourdin près de 9 ans après les faits, des faits qui sont vraisemblablement prescrits. La lutte contre l'épidémie de coronavirus avec deux informations à la mi-journée. D'abord le pass vaccinal, il pourrait entrer en vigueur en fin de semaine prochaine. Cette nuit, les députés ont adopté le projet de loi en deuxième lecture. Le texte va donc à nouveau être examiné dans la journée au Sénat. Le pass sanitaire maintenant et un compte à rebours bien enclenché à compter d'aujourd'hui. Les Français majeurs n'ayant pas reçu leur dose de rappel dans les temps verront leur passe sanitaire désactivé. 560 000 personnes pourraient être concernées selon la Direction Générale de la Santé. Le délai pour recevoir sa dose de rappel est fixé à 7 mois. Il sera réduit à 4 mois à partir du 15 février prochain. Et malgré une circulation du virus toujours en hausse, on note en France des signes encourageants et un soupçon d'espoir en raison de la moindre gravité du variant Omicron si elle se confirme. Mais on enregistre d'ores et déjà une baisse des hospitalisations dans certaines régions. Et la question de la quatrième dose semble aujourd'hui s'éloigner, même si des études sont actuellement en cours. Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique vaccination à la Haute Autorité de Santé.
Pour l'instant, je ne suis pas du tout sûre qu'on aura besoin d'une quatrième dose. Pour nous, il est clair que le schéma vaccinal, c'est deux doses plus une dose, c'est-à-dire les trois doses, une primo vaccination, un rappel. Les personnes qui sont très à risque et surtout qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire qui répondent mal à la vaccination, auront très certainement besoin, et d'ailleurs on le fait déjà, d'une quatrième dose pour restimuler leur immunité. Pour le reste de la population, il n'est pas du tout certain. Nous sommes en train d'étudier la question. Nous n'avons pas de données actuellement qui nous permettent de justifier cette mesure qui va prendre en compte à la fois, si vous voulez, la durée de l'immunité obtenue avec le rappel et l'évolution épidémique.
Elisabeth Bouvet ce matin sur France Info à l'étranger, en Inde notamment. Les cas de contamination explosent à cause du variant Omicron. 260 000 cas détectés hier, une augmentation de 10% chaque jour. Une flambée de l'épidémie au moment où un gigantesque festival hindou doit se dérouler dans la région du Bengale, dans l'est du pays. Des millions de pèlerins doivent prendre part à des bains rituels dans l'estuaire du fleuve sacré du Gange. Sur place à New Delhi, Sébastien Farcy.
Des centaines de milliers de pèlerins sont déjà arrivés de tout le nord du pays pour leur bain rituel dans l'estuaire du Gange, le fleuve le plus sacré de l'hindouisme. Les dévots se rendent pour cela sur une île et des milliers procèdent alors à leurs ablutions en même temps, ce qui implique de plonger son corps et de passer de l'eau sur son visage. Pour le docteur Suradipto Chandra, médecin généraliste à New Delhi, ces rituels collectifs sont très risqués en pleine vague de Covid-19.
Quand vous prenez un bain, vous répandez tous les fluides de votre corps, vos muqueuses, votre salive, tout cela se mélange à l'eau. Or, c'est par ces fluides que la plupart des gens sont infectés. Cet événement va donc se transformer en un super propagateur du Covid. Or, nous sommes au milieu de la troisième vague, même pas encore au pic. Ils auraient donc dû le reporter.
Pour accéder à l'île, les pèlerins doivent prouver qu'ils sont vaccinés et qu'ils ont été récemment testés négatifs au Covid-19. L'année dernière, des mesures similaires avaient été mises en place lors du festival de la Kumbh Mela, mais cela n'avait pas empêché des milliers de pèlerins d'être infectés et plusieurs religieux étaient même morts du Covid pendant l'événement. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Et puis en Tunisie, le correspondant du journal Libération a été brutalisé hier par des policiers. Ils l'ont empêché de couvrir une manifestation contre le président Raïs Saed. Le journaliste de Libé, Mathieu Galtier, a été violemment frappé par plusieurs policiers. La direction de Libération condamne fermement cette agression. Sur place à Tunis, Maureen Mercier.
Roué de coups par la police alors qu'il couvrait comme des dizaines de journalistes les arrestations, parfois musclées, de manifestants, Mathieu Galtier a été traîné entre deux fourgonnettes. Ils ont commencé à me frapper dans tous les sens. J'étais à terre, recroquevillé en position fœtale. Je criais que j'étais journaliste. L'un d'eux m'a aspergé de gaz à bout portant, raconte le correspondant de Libération. D'autres journalistes ont été empêchés de filmer. Un photographe a également été matraqué. Natalia Roman-Morté, présidente de l'association des correspondants en Afrique du Nord.
La vérité, c'est que On n'a jamais vu une telle violence policière comme on l'a vu hier depuis la création de notre association en 2014. Notre confrère s'est fait passer à tabac en plein journée au centre-ville de la capitale et à la vue des centaines de personnes. Et ça montre à quel point la police agit en toute impunité et ça marque un tournant très inquiétant.
Les violences policières sont récurrentes en Tunisie. L'an dernier, des centaines de jeunes Tunisiens ont été arrêtés en début d'année. Mais jusqu'ici, les journalistes étrangers étaient épargnés. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Un mot de sport avec en Hongrie, le championnat d'Europe de handball qui se poursuit pour l'équipe de France masculine. Les Bleus affrontent l'Ukraine ce soir à 18h. Après leur belle victoire jeudi soir contre la Croatie, les Français ont bien lancé leur championnat. Ils pourraient même faire un grand pas vers le tour principal avant le dernier match du premier tour qui se jouera lundi contre la Serbie. Mais attention, les Français, champions olympiques, sont en pleine reconstruction et l'équipe de France va devoir continuer à se serrer les coudes pour avancer dans cet Euro, Jean-Pierre Blimaud.
Renouvelée pour moitié depuis la victoire au JO de Tokyo, l'équipe de France a montré contre la Croatie qu'elle pouvait compter sur ses novices. Et pas question de minimiser le rôle des jeunes, tient à préciser Nicolas Karabatic.
Tous les joueurs qui sont là, ils méritent. Et s'ils sont en équipe de France, c'est parce qu'en club, ils sont bons et qu'ils ont des responsabilités et qu'ils jouent la Ligue des Champions. On compte sur eux, on a confiance en tous les joueurs, que ce soit ceux pour qui c'est la première compète et ceux qui en ont fait 2-3 déjà. On est tous là pour le maillot, pour le bien de l'équipe de France et pour aller chercher des médailles.
Et parmi ces jeunes, il y a Karl Konan, appelé à tenir la baraque en défense. Pour lui, les Bleus auraient pu marquer plus de buts lors du premier match.
C'est clair qu'on a été devant tout le match, mais on n'a pas réussi à mettre la tête sous l'eau aux Croates. Si on doit mettre plus 10, arriver à les mettre plus 10.
Karl Konan fait partie des solutions de repli dans un groupe France bien fourni, explique Éric Mathé, l'entraîneur adjoint des Bleus.
On a des absences, mais c'est là aussi qu'on voit la force du handball français par son vivier. On arrive à avoir des jeunes à qui il manque l'expérience internationale, mais on voit qu'ils sont au niveau dans le quotidien, dans les exigences du très haut niveau.
Mais il va falloir hausser le niveau, poursuit le sélectionneur Guillaume Gilles.
Secteur par secteur, il y a plein de choses à redire si on veut avancer loin dans cette compétition.
Et pour avancer le plus loin possible, il vaudrait mieux que les Français battent l'Ukraine ce soir, mais aussi la Serbie lundi, pour achever le premier tour avec le maximum de points.
Le choc culturel du week-end avec une date, il y a tout juste 400 ans, le baptême de Jean-Baptiste Poquelin, et en ce 15 janvier est lancé officiellement l'année Molière en France. La Comédie française a mis les petits plats dans les grands avec la création ce soir à 20h dans la salle Richelieu de Tartuffe dans sa forme originelle, créée en 1664 puis interdite par Louis XIV. La pièce n'a jamais été jouée dans cette forme dans la maison de Molière. Elle est mise en scène par l'un des plus grands metteurs en scène européens, le Belge Ivo Van Hove, et vous serez nombreux ce soir à pouvoir la voir en direct puisque la pièce est diffusée dans 200 ciné-pâtés de Ciné-Pâté Live. Stéphane Capron a vu la pièce en avant-première.
Ce Tartuffe inédit, on le doit à l'historien Georges Forestier. Tel un archéologue, il a reconstitué les trois actes de cette version, véritable satire des dévots. La doyenne du français, Claude Mathieu, joue Madame Pernelle.
Là, on est vraiment centré sur la famille et le dévot. Ivo a été dans le sens de ce qui se passe dans une famille, la violence. Et c'est très concentré.
Christophe Montenez endosse, lui, le rôle de Tartuffe.
Il y a un amour qu'il partage avec Orgon, d'amour mystique, avec Elmire, un amour charnel, un désir très fort. En fait, on peut le voir vraiment comme un révélateur de cette famille-là qui va exploser grâce à lui.
Ivo Van Hove fait de ce Tartuffe un thriller familial.
Ce que j'aime, c'est qu'on gagne un spectacle que j'espère est comme une bombe. Il y a des scènes très doux, très tendres, et alors il y a une explosion d'émotions énorme. Et c'est comme ça.
Ivo Van Hove instaure une tension pendant les trois actes. Tout est à fleur de peau. La musique d'Alexandre Desplat instaure un climat inquiétant. La troupe du français est à son apogée. C'est du grand art pour ouvrir l'année Molière.
Le Tartuffe ou l'Hypocrite jusqu'au 24 avril à la Comédie française. Et ce soir en direct, donc dans 200 salles avec Pâté Live en France, mais aussi en Suisse, en Belgique, au Maroc ou encore en Russie. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Si cet après-midi, les régions de la moitié sud sont baignées par un large ensoleillement, du nord de la Loire au Grand Est jusqu'au Val-de-Saône, les grisailles et les brouillards de la matinée auront une évolution souvent beaucoup moins favorable, et on notera sur la Bretagne l'arrivée d'un ciel plus maussade en fin de journée. Les températures maximales vont afficher pour les plus basses 4 à 7 degrés sur le centre Val-de-Loire, le nord de la Seine et du Grand Est à Rhône-Alpes. Il fera 9 à 11 sur la façade atlantique, 12 à 14 du golfe du Lion à la Provence et 16 sur la Corse. La nuit prochaine, les gelées vers 0 moins 4 seront fréquentes avec à nouveau une journée plus dégagée au sud que dans la moitié nord, souvent marquée au réveil par des brouillards givrants suivis de grisailles persistantes et de pluies faibles près de la Manche où le vent sera sensible vers une cinquantaine de kilomètres heure.
Jean-Michel Golinski de Météo France.